إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا دبخ أبو سعيد سعد ابن مالك ابن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه لمسجد الله صلى الله عليه وسلم أدي لا ضرر ولا ضرار Et la traduction de ce hadith, inshallah, on va voir qu'elle peut se faire de plusieurs manières. À travers l'explication, inshallah, on va voir qu'il y a plusieurs traductions possibles pour ce hadith. An-Nawawi rahimahullah ta'ala, il dit, c'est un hadith bon, rapporté par Ibn Majah et Ad-Darqutni, ainsi que d'autres, Musnada. Ça veut dire qu'il y a une chaîne de transmission allant jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans aucune interruption. Ensuite, il dit, et il a été rapporté par Malik dans le Muwatta Mursala, c'est-à-dire qu'entre le Tabi'i et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le compagnon n'est pas mentionné. Il y a une interruption dans la chaîne de transmission. C'est pour cela qu'il dit d'après Amr ibn Yahya, d'après son père, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'a pas mentionné Abu Sa'id, c'est-à-dire Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu. Et il a différentes voix qui se renforcent les unes les autres. Et c'est pour cela que les savants, rahimahumallahu ta'ala, l'ont jugé comme bon. Donc on a dit que ce hadith, il peut être traduit de différentes manières. Et ce en fonction de l'explication donnée au terme de ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit ici, « La dharara wa la dirar ». Certains ont dit, il n'y a pas de différence entre ces deux termes. Et que « al-dirar », le deuxième mot, il a le sens d'ad-dharar, qui est la nuisance ou le tort causé à soi-même ou à autrui. Dans ce cas, on dira que la répétition, c'est une manière d'insister sur le sens et de le confirmer. Et la nuisance, c'est toute chose qui constitue un préjudice, que ce préjudice soit matériel ou moral, qu'il soit causé envers autrui ou envers soi-même. Et ce qui est demandé à l'homme de manière générale, c'est d'être profitable, d'être utile et de ne pas être nuisible. Ce que tu dois rechercher, c'est tout d'abord être profitable envers ta propre personne, en accomplissant ce qui te profite ici-bas, ainsi que dans l'au-delà. Et également, tu dois être profitable envers les autres. Tu dois être profitable pour les autres. Et que tu ne causes de tort ni à ta propre personne, ni à autrui. Donc selon cette explication, on pourrait dire que le hadith, il signifie « ne te cause point du tort et n'en cause pas à autrui ». La deuxième explication, c'est que « al-dharar », le premier mot, il désigne la nuisance involontaire. Que ce soit une nuisance physique, une nuisance morale, une nuisance corporelle ou financière, ou toute nuisance. À partir du moment où elle est involontaire, elle rentre dans cette première catégorie. Alors que al-dirar, il désigne la nuisance volontaire, celle accomplie avec la volonté de nuire. Donc la première, elle a lieu involontairement. Mais une fois que tu en as connaissance, alors il t'incombe de la cesser et de ne pas persister sur celle-ci. Par exemple, il se peut qu'un homme ait un jardin et qu'il arrose quotidiennement son jardin. Et sans qu'il ne s'en rende compte, l'eau, elle déborde chaque jour devant chez son voisin ou à l'intérieur de la maison de son voisin. Et ceci, bien évidemment, cela cause du tort à son voisin. Mais c'est un préjudice involontaire. Il est donc appelé « darar ». Mais dès qu'il a connaissance de ce tort causé, qu'est-ce qui lui incombe? Il lui incombe de mettre fin à ce tort, de le cesser, mais aussi de réparer les torts causés. Quant à la nuisance volontaire, c'est le cas par exemple d'un homme qui est en conflit avec son voisin et qui fait couler de l'eau volontairement ou qui lui cause d'autres préjudices afin de lui nuire volontairement. Et il n'y a pas de doute que ceci est interdit dans notre noble religion. Donc d'après cette explication, le sens du hadith, ce serait « ne cause aucune nuisance ou aucun tort, que ce soit volontairement ou involontairement. Ne cause aucune nuisance, qu'elle soit volontaire ou involontaire. Le troisième sens, ou la troisième explication, c'est que al-dhirar, il désigne le fait de rendre le mal par le mal, c'est-à-dire de causer du tort à celui qui est en cause. Et la base à ce sujet, c'est la permission de rendre l'appareil. D'après la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا. La sanction d'une mauvaise action est une mauvaise action identique, ainsi que dans d'autres versets allant dans ce sens. Cependant, il y a un comportement meilleur, un comportement plus noble que cela, et c'est le fait de pardonner à celui qui t'a causé du tort. Car Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit dans la suite du verset ? فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Mais quiconque pardonne et réforme, alors sa récompense incombe à Allah. Donc le fait de rendre l'appareil, cela est permis à la base. Rendre la nuisance par une nuisance identique. Mais le pardon, il est meilleur. Et si tu agis ainsi, celui qui t'a causé du tort, il deviendra par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala ton ami. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit au verset 34 de la sourate Fussilat. Lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. La bonne action n'est pas semblable à la mauvaise. Elles ne sont pas pareilles. اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Repousse, c'est-à-dire repousse le mal, par ce qui est meilleur, de la meilleure manière. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité deviendra tel un ami chaleureux. Subhanallah. Si tu repousses le mal de la meilleure manière, quelqu'un qui te cause du tort, tu lui rends son mal d'une meilleure manière, par une bonne action, par de la bienfaisance envers lui. En faisant cela, en plus d'obtenir une récompense immense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'animosité qu'il y avait entre vous, elle se transformera en amitié. Il deviendra un ami chaleureux. Et ceci, bien sûr, ce n'est pas donné à tout le monde. Seuls les patients en sont capables. Car c'est une chose difficile pour l'âme. Car l'âme, en général, elle cherche les représailles. Elle cherche à se venger. Elle cherche à récupérer l'ensemble de ses droits. Mais si tu patientes, tu en obtiendras ses fruits bénéfiques. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset suivant, وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Mais ce privilège n'est donné qu'à ceux qui endurent, les patients, et il n'est donné qu'aux possesseurs d'une grâce infinie. Donc tu dois patienter et ne pas assouvir ton désir de représailles auquel ton âme t'incite, et ainsi tu auras atteint ce haut degré et ce noble comportement. Cependant, il est important de souligner que ceci n'est pas légiféré de manière générale. C'est-à-dire que ce n'est pas dans tous les cas qu'il est mieux de pardonner. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit dans le verset qu'on a cité ? فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ. Mais quiconque pardonne et réforme. C'est-à-dire qu'il faut que son pardon soit une cause de la réforme de la personne. C'est-à-dire que si une personne te cause du tort, suite à un faux pas, suite à une faiblesse, par erreur, ou par manquement, ou inattention, alors à celui-ci, il convient de lui pardonner. Il ne convient pas de lui réclamer ton droit, car il s'est trompé. Donc il convient que tu fasses preuve d'indulgence envers lui, en lui accordant ton pardon. Et ainsi, disparaîtra toute animosité entre vous. Cependant, celui qui ne cesse de causer du tort aux gens, par exemple, celui qui a la langue longue, ou la langue pendue comme on dit, qui passe son temps à dénigrer les musulmans, à mentir sur les musulmans, à médire et calomnier sur les musulmans, alors celui-ci, il ne convient pas de lui pardonner. Car le fait de lui pardonner, cela ne fait que rajouter du mal à son mal. En effet, si tu lui pardonnes, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va continuer. Est-ce qu'il va se réformer ? La réponse est non. Il va continuer dans son mal. Il va continuer dans sa transgression. Il va continuer dans son injustice envers les gens. C'est pour cela que celui-ci, il ne convient pas de lui pardonner, mais il convient de lui réclamer son droit. Et ce, afin de le stopper dans son injustice. Le pardon, donc, il est légiféré quand celui-ci est une cause de réforme. Mais si ce n'est pas une cause de réforme, et que la personne est connue pour être récidiviste dans son mal, alors il ne convient pas de lui pardonner, mais il faut lui réclamer son droit. Donc d'après cette troisième explication, le sens du hadith, ce serait « ne cause point de tort, pas même à celui qui t'en cause ». Ou alors « ne cause point de tort et ne rend pas le mal par le mal ». Donc comme vous le voyez, ce hadith est une base et un fondement immense qui s'applique dans de nombreux domaines, et notamment dans les relations avec les gens. Le musulman, il doit veiller à être utile et profitable, à ne pas causer du tort aux gens, pas même par représailles contre celui qui lui a causé du tort. Et si tu agis ainsi, il n'y a pas de doute que tu obtiendras par cela l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais également l'amour des gens. Donc après cette explication concise des sens de ce hadith, on va énumérer comme d'habitude quelques bénéfices que l'on peut tirer de celui-ci. Premièrement, on tire comme bénéfice de ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est vu accorder jawami'ul kalim. Comme on a dit, c'est le fait qu'il prononce quelques mots qui renferment de nombreux sens. Et ceci fait partie de ses particularités sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a déjà vu à travers d'autres hadiths. Et regardez ici dans ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers ces quelques mots qu'il a prononcés, on a tiré de nombreux bénéfices et même plusieurs sens qu'il renferme. Deuxièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith que les nuisances, elles doivent être repoussées avant même qu'elles ne se produisent. C'est-à-dire que tout ce qui cause du tort à autrui, tu dois faire en sorte de t'en éloigner. Il convient de t'en écarter et de tout faire pour que ceci ne se produise pas. Et une fois que la nuisance s'est produite, alors il convient de tout faire pour y mettre fin et de réparer les torts causés. Troisièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith l'interdiction de se causer du tort à soi-même et d'autant plus l'interdiction d'en causer à autrui. En effet, le musulman, il ne doit pas être nuisible, mais il doit profiter aux gens. Il doit être utile dans la société. Et comme il est venu dans un autre hadith rapporté par Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: parmi les gens, le plus aimé par Allah est celui qui est le plus profitable. Et ce hadith a été jugé bon par l'imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Donc c'est ainsi que doit être le croyant. Il doit être profitable. Profiter aux gens par sa personne. Profiter aux gens par ses biens. Profiter aux gens par ses bonnes paroles. Profiter aux gens par sa présence, par son temps. Et tout ce qu'il peut faire pour être utile pour les gens. Et ce à commencer par sa famille, ses parents, mais également ses proches, ainsi que son entourage et l'ensemble des gens. Le musulman, il doit veiller à ne pas être nuisible, à ne pas causer du tort à autrui, ni par sa langue, ni par ses actes, ni d'une quelconque autre manière. Mais il doit veiller à être profitable, recherchant ainsi l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il est venu dans un autre hadith, rapporté également par Ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhuma, le musulman est celui dont les musulmans sont à l'abri de sa langue et de sa main. Et ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala. Donc le musulman, celui qui a perfectionné sa religion, les musulmans doivent être à l'abri de sa langue et de sa main. Il ne leur cause aucun tort, ni avec sa langue, ni avec sa main. Et certes, il est relativement simple pour le musulman de mettre à l'abri les musulmans du mal de sa main. Mais malheureusement, combien sont ceux parmi nous qui ne mettent pas leurs frères et leurs sœurs à l'abri de leur langue? Wallahu al-musta'an. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner. On a vu dans d'autres hadiths les méfaits de la langue et le danger des mauvaises paroles prononcées par la langue. On a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les gens seront jetés au feu sur leur visage. À cause de quoi? À cause de ce qu'ont semé leur langue. Comme mauvaises paroles, comme médisance, comme calomnie, comme mensonge sur leurs frères et leurs sœurs, comme mauvaises paroles, et ainsi de suite. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner pour nos manquements. Quatrièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith l'encouragement au pardon et à rendre le mal par le bien. Et ceci doit être un comportement duquel doit se parer les croyants. En effet, celui qui t'a causé du tort par mégarde, qui a fait un faux pas envers toi, il te convient de lui pardonner, de ne pas lui demander compte pour ce mal, mais d'accepter ses excuses, surtout s'il se repent et revient à toi en s'excusant. Et si la personne te cause du tort, tu dois lutter contre toi-même afin de ne pas chercher à lui rendre l'appareil et à lui rendre le mal par le mal. Au contraire, tu dois faire des efforts afin de lui rendre ce mal par le bien. Et ainsi tu repousseras son mal et tu obtiendras l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même que le bénéfice qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le verset que l'on a cité. L'animosité qu'il y a entre toi et ton opposant, elle se transformera en amitié chaleureuse par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien entendu, on a dit que ceci doit avoir lieu lorsque le pardon mène à la réforme de la personne. Mais si le pardon le fait augmenter dans son mal, le fait augmenter dans son injustice, le laisse libre de continuer de causer du tort à d'autres musulmans, alors dans ce cas-là, le pardon n'est pas légiféré, mais il convient de lui réclamer ton droit. Cinquièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith qu'il convient à l'homme de faire prévaloir les intérêts religieux à ses désirs personnels. En effet, regardez qu'est-ce que l'on a dit à travers ce hadith. Celui qui est victime d'une injustice, à quoi son âme elle le pousse? Elle le pousse à la vengeance, elle le pousse aux représailles, elle le pousse à réclamer son droit. Mais le croyant, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé la patience et l'endurance, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire prévaloir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala à ses désirs personnels, à ses désirs de représailles. Et il va pardonner à cette personne qui lui a causé du tort. Bien sûr, comme on a dit, si le pardon est une cause de réforme. Et ceci nous montre que le croyant, il ne doit pas regarder simplement sa propre personne, mais il doit aller au-delà de ce que recherche son âme et regarder les intérêts religieux et faire prévaloir ce qui lui permettra d'obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala en toute situation. Sixièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith l'interdiction de rendre le mal par un mal plus grand. En effet, si ici dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous encourage à ne pas rendre le mal par un mal similaire. Alors d'autant plus, il est interdit de rendre le mal par un mal plus grand. En effet, il y a certaines personnes qui sont victimes d'une injustice et tu les vois après cela se venger d'une manière encore plus grande. Et en faisant cela, tu passes d'oppressé à oppresseur. C'est toi le transgresseur à partir de ce moment, car tu as été injuste, tu n'as pas été équitable. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a permis, c'est de rendre le mal par un mal identique. Mais celui qui transgresse, cela devient lui l'oppresseur, et l'oppresseur de base devient quant à lui la victime de sa transgression. Septièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith que l'islam est une religion de bienfaisance qui encourage l'homme au noble comportement avec les gens, ainsi qu'au pardon et à la réforme de la société. Et ceci fait même partie de la concrétisation de la foi. Comme on l'a vu dans un autre hadith, nul d'entre vous n'aura la foi tant que quoi? Tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Donc de la même manière que lorsqu'il t'arrive de commettre une erreur et de nuire à ton frère, tu aimes qu'il te pardonne et qu'il ne t'en tienne pas égard. Donc toi aussi, lorsqu'il fait des faux pas et qu'il te cause du tort, par erreur ou par mégarde, il te convient d'aimer pour lui ce que tu aimes pour toi-même et de le pardonner et de ne pas lui en tenir compte. Et si tout le monde agit ainsi, cela fera naître chez les gens l'amour et l'amitié ainsi que la concorde permettant d'atteindre ainsi un des objectifs de notre religion qui est le fait de s'unir tous ensemble sur la vérité. Ceci était donc quelques bénéfices que l'on peut tirer de ce hadith. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakum allahu khayra.